I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK.
J'ai un cousin chien, je déteste les chiens, mais...
J'adore les animaux, hein, par ailleurs, mais n'insultez pas dans les commentaires.
Ben, bien sûr que si, Mimi, je fais ce que je veux, d'accord?
Oui.
Je n'ai pas compris ce point dans le podcast.
Le kiff. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases.
Quoi? Quoi?
Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là, putain!
Mais ça va pas de me poser une question pareille.
Allez, bonjour après-midi.
Bonjour, bon après-midi et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, la pistache des podcasts francophones, épisode 172, comme le temps passe. Je suis entourée aujourd'hui d'une team de choc, je suis moi-même Mimi Hegel, rédactrice en chef de Mademoiselle et animatrice de Laisse-moi kiffer, en intérim depuis maintenant quelques mois, avec un plaisir non dissimulé. Comme d'habitude, pour vous présenter mes coéquipiers du jour, je vais leur poser une question, et en l'honneur de notre invité, qui est Kevin Donat, je vais vous demander, et il vous expliquera ensuite pourquoi, quel coin de Paris vous correspond, si vous étiez un coin de Paris. Et je sais que j'ai autour de moi des gens qui connaissent plutôt bien la ville, pas comme moi qui regrette déjà d'avoir choisi cette question.
Kalindi, tu vois, ça laisse les gens pantois, Mimi.
Oui, mais j'aime bien ce petit silence où en vrai, vous avez déjà la réponse et vous êtes en train de vous dire non, peut-être c'est pas ça, c'est autre chose. Et en fait, c'était la bonne réponse que vous aviez au début parce que c'est le premier truc auquel vous avez pensé. La psychologie. Mmh. Après, on peut se regarder dans le blanc.
Non, mais
personne
ne sait.
Attends,
l'air
toi, attends. Alors, vas-y, tant pis.
Allez.
Eh ben, moi, évidemment, je ne peux pas être un autre arrondissement que le 18e, déjà, parce que c'est le seul arrondissement où il est décent de vivre, et aussi parce que il y a mon endroit préféré. Anthony, tu habites dans le 18e.
Oui.
Et tu te balades à Montmartre le samedi comme moi, sans
évidemment.
Doute. Évidemment. Et donc, tu sais, il y a le lapin agile, est-ce que tu vois? C'est
ouais.
Cette devanture rose qu'on adore, qui est, je crois, un ancien cabaret, la personne qui connaît évidemment la moitié des informations. Sur son arrondissement où elle vit depuis toujours. Non, moi je suis le 18e parce que je trouve que c'est...
Tu mens, t'as fait le Valois quand même.
Je savais que t'allais capter.
Il faut être
je suis née à Levallois, je vais te le dire, je suis née à Levallois-Perret.
Ça arrive à des gens.
J'ai grandi.
Bien.
Ouais, bah oui.
On n'en a pas là comme ça
ouais,
en tête,
pas comme ça en
mais il y a toi
ouais.
Quoi.
Avant,
et ta mère.
Mais je suis pas née à Levallois, je suis née dans le 15e, c'est
okay.
Encore pire.
Okay.
Donc...
Ouais.
Mais je suis le 18e parce que déjà on y mange très bien. Vous connaissez mon amour pour la gastronomie de tout type. Donc on y mange très bien. Je trouve que c'est un endroit romantique tel que je le suis moi-même. Je suis une vraie fleur bleue sous mes airs de personne désagréable. Et franchement, j'ai pas grand-chose de gaulerie à dire aujourd'hui sur quel arrondissement je suis, enfin quel quartier.
Mais c'est pas grave.
Mais
je
suis
très juste.
Le 18e en face du lapin agile. Voilà. Voilà,
plutôt
c'est tout.
Au crépuscule, plutôt sous la pluie, plutôt au soleil.
Ah non, alors vraiment le soir et le soir de confinement. C'était incroyable. Pendant le confinement, j'allais courir tous les soirs. Et en fait, je faisais exprès de rentrer de footing à 20h. Comme ça, quand les gens applaudissaient, j'ai l'impression qu'ils m'applaudissaient moi. Et c'était vraiment...
Quelle idée géniale.
Et franchement, c'était super. Et j'allais voir le soleil se coucher sur la basilique du Sacré-Cœur. Et c'était aussi cliché que c'était agréable.
Très romantique. Kalindi in Paris.
Et oui, tout à fait.
Anthony.
Bah, j'allais répondre le 18e aussi, mais parce que j'y vis, mais d'ailleurs, on ne s'est jamais croisé, Kalindi.
Mais c'est dingue.
Et notamment, justement, au coucher du soleil sur la butte et tout, c'est magnifique. Mais j'en ai déjà parlé dans un LMK précédent, je crois, quand j'ai emménagé dans ce quartier. Mais pour être plus original, je dirais le 13e. Non, mais pour ne pas répéter la même chose, puisque tu l'as si bien dit, Kalindi, je ne saurais t'égaler. Je dirais le 13e parce que j'ai vécu du côté d'Olympiade pendant assez longtemps et j'adorais ce quartier parce que la ligne 14, meilleure ligne. Il y a plein de restos trop bons.
Pour celles et ceux qui savent pas, c'est une des seules lignes automatiques à Paris qui est donc efficace, climatisée, qui va vite et qui fait moins de bruit que les vieux métros de 1880.
On attend 14 minutes entre Châtelet et Gare de Lyon, mais sinon c'est
t'attends.
Super.
J'ai chronométré 3 minutes parce que je suis toujours en retard, du coup chaque minute compte et c'est pour ça que je marche très vite. Et la 14e, c'est aussi la seule ligne accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est vraiment, Paris, c'est un désastre à ce niveau-là, vraiment.
De ouf.
Rappelons-le, hein. Et oui, il y a un temps de frère immense dans le 13e, et ça n'a pas de prix non plus. Enfin, c'est délicieux.
C'est vrai.
J'adore ce quartier. Et il y a la Butte aux Cailles, et c'est là où j'ai fait mes dates les plus romantiques. Tu peux regarder des petites
maisons.
C'est
un bon spot pour les dates, la Butte aux Cailles.
Tu te balades, tu te promènes. Et puis, il y a plein de street art qui se renouvellent tout le temps. Donc, voilà, j'adore ce quartier. Et t'es pas loin aussi des cinémas d'art et d'essai, du 5e et tout. Enfin, dans le 13e aussi, on a d'ailleurs.
C'est le seul truc dont t'es prêt, parce que sinon t'es loin de tout, quoi.
Non, t'as la 14, t'es prêt de tout, justement. Voilà.
Très bien, Kevin.
À moi, je vais rester un peu dans l'arrondissement que je connais le mieux, le 5e. Alors, qui a la réputation d'être
arrondissement...
C'est
bien, c'est l'arrondissement que personne ne connaît.
Voilà, arrondissement vieillot, bourgeois, Sorbonne, Jardin des Plantes, Panthéon, etc.
Jussieu, tout ça ?
Ouais, aussi.
Ok. C'est très coquet.
Ouais, c'est très coquet. Et c'est là où se passe la majeure partie de mon travail de guide. C'est aussi, je suis pas parisien à la base, donc c'est un peu par ce quartier-là que j'ai découvert Paris. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire noire. Et en fait, ça surprend beaucoup les gens. Notamment les Parisiens, lorsque je leur dis qu'il y a de l'histoire noire dans le 5e arrondissement, ils me répondent bah non, mais c'est le quartier des intellectuels, donc du coup peut pas y avoir d'histoire noire. Et en fait si, de Aimé Césaire à plein d'autres, James Baldwin et puis aujourd'hui Joséphine Baker, donc il y a des trucs historiques intéressants.
Du coup, c'est l'occasion d'expliquer à nos auditeurs et auditrices qui ne le sauraient pas déjà, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Eh ben, moi, ce que je fais dans la vie, donc je suis guide conférencier, ça fait 10 ans que j'exerce à Paris, et depuis 8 ans, je raconte l'histoire de grandes personnalités venues du monde noir, donc au sens large, donc Afrique, Antilles-Guyane, États-Unis, passées par Paris, et qui ont laissé une trace plus ou moins visible. Et en fait, il y avait déjà des gens qui racontaient un peu l'histoire noire de Paris, mais c'est surtout des Afro-Américains qui racontaient l'histoire des Afro-Américains, pour des Afro-Américains. Moi, j'avais envie de raconter aussi l'histoire coloniale française. Évidemment, on parle de Josephine Baker, de James Baldwin, de Richard Wright, de tout ça, mais on parle aussi de questions brûlantes, d'angles morts de notre histoire, de trucs comme ça, et je crois que c'est cool.
Mais tu es guide.
Oui.
C'est-à-dire
C'est-à-dire guide. Ouais, c'est vrai que c'est vaste, en fait, hein, comme truc. Moi, j'ai commencé, en fait, par faire les free tours. Donc vraiment, tu vois, les touristes anglophones à la grande époque, avant le Covid, qui viennent et qui veulent se balader autour de, je sais pas, de Notre-Dame, de Montmartre, de quartiers touristiques. Et en fait...
Tu ferais ça bien.
Je pense, ouais.
Attends,
ouais.
Mais
il faut aller
d'être
vers
un
l'autre,
génial.
Et je pense que tu pourrais le faire. Pas en 2021.
Est-ce que tu portes des déguisements ou pas ?
Tu peux le faire, moi je le fais pas.
T'as un parapluie pour dire suivez-moi.
quand j'ai commencé, moi la boîte pour laquelle je bossais, il fallait porter des vestes roses pour que les touristes nous identifient au point de départ de la visite. Mais aujourd'hui, je porte pas de déguisement, je suis moi-même. Et c'est un très chouette métier, pas forcément super fun en époque Covid où ça voyage plus trop Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup ce métier. Je me vois pas trop faire autre chose pour l'instant.
Et puis c'est un métier qu'on connaît peu, nous. Enfin, moi, je connais pas de guide, par exemple. Je connais beaucoup de graphistes.
Ouais.
Je connais vraiment pas de guide.
Ouais, c'est vrai, c'est clair.
Ravie de rencontrer un guide.
Ouais, enchanté. Impressionné. Pareil.
On parle de chercheurs, on parle de guide ici, c'est incroyable.
Ah, c'est un podcast intellectuel sur les métiers de notre belle patrie.
C'est devenu un. C'était pas ça, la création, vraiment.
Non, on se souvient de Monsieur Chaussette.
Tout à fait.
C'était moins intellectuel.
C'est quoi cette histoire ?
Oh là, il faut remonter au début de Laisse-moi kiffer quand Cédric avait retrouvé. Une chaussette de l'histoire racontée par les chaussettes. Il a une émission YouTube de Yacine Dedo qui était venue tourner un épisode chez Mad. Et du coup, il avait décidé d'en faire son alter ego maléfique avec la pire voix. Et il a notamment raconté tout son séjour à Burning Man par la voix de Monsieur Chaussette qui racontait Burning Man et qui était odieux. Du coup, on a fini par perdre Monsieur Chaussette parce qu'on n'en pouvait plus. C'était vraiment très long, un épisode entier.
Et bienvenue dans le podcast du kiff et de la digression des pistaches et puis de toutes les horreurs de la nature. C'est moi, Monsieur Chaussette, et je suis... La star de Laisse-moi kiffer!
Tu sais que j'ai peur que ça marche et qu'il fasse du stand-up et tout, genre.
Non, mais surtout que les gens réclament, on veut plus d'épisodes de Laisse-moi kiffer avec Monsieur Chaussette, parce qu'au pire, il fait du stand-up,
oui,
on n'a qu'à pas y aller, tu vois.
Vous savez que c'est la vérité.
Chers auditeurs, chères auditrices, pour le bien de Kalindi et moi, qui sont quand même la moitié de ce podcast, ne réclamez pas trop Monsieur Chaussette.
Mais ne le réclamez pas du tout! Mettez un point final à cette folie!
C'était quel épisode si on veut le retrouver ?
On vous le mettra dans les. Je le mettrai dans le note du podcast. Faut chercher Laisse-moi kiffer Burning Man.
T'as pas envie d'entendre ça du tout, Antoine.
Ah, si,
c'est très long, hein, cette voix, vraiment. C'est 3 minutes, c'était marrant. Là, c'est une heure et demie même. On faisait des longs podcasts.
Oh mon dieu, je vais écouter ça juste après l'enregistrement.
Écoute, salut Pierre, chacun sa méthode. Mais... Du coup, Kevin, si les gens veulent découvrir tes tours, qu'est-ce qu'ils vont chercher sur Google?
Ils cherchent le Paris Noir. Les réservations, on n'a pas de billetterie en ligne pour l'instant, ce sera pour 2022, mais c'est leparisnoir@gmail.com. Et puis sur les réseaux sociaux, surtout Insta, @leparisnoir.
Très bien.
Oui.
Pour ma part... J'aimerais ne pas faire cette réponse parce que je pense que c'est un peu une réponse de connard, mais j'aime vraiment beaucoup le Marais. Et j'aime beaucoup, c'est un peu le seul endroit de Paris où je sais, j'ai mon petit tour de balade dans les boutiques de déco, genre Fleux, où il y a toujours genre, c'est de la déco qui coûte beaucoup trop cher et il y a de la vaisselle beaucoup trop belle et plein de...
Ils ont des petits râteaux à imprimer Liberty, c'est vraiment la meilleure chose.
Tout est bien chez Fleux et à chaque fois je n'achète rien car si je mets le doigt dedans, ça va partir très vite. Et il y a un petit spot que j'adore qui s'appelle Mosaïque, qui est un truc à hot dog dans un mur en mosaïque où t'as juste un gars qui s'appelle Pat qui fait les mêmes hot dogs depuis 128 ans.
Ah, je crois que je vois. Est-ce que c'est à côté d'un bar qui s'appelle le Stolise? Genre vers la rue des Arts, je connais. Eh ben, ouais, j'adore ce hot dog. Ouais, je suis d'accord.
Et du coup, aller faire une petite balade shopping dans le Marais, puis manger un hot dog de pâte sur un banc au crépuscule, puis boire une bière en terrasse. C'est vraiment mes petits dates avec mon mec que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je suis le Marais, même si je n'y habiterai probablement jamais, car c'est très cher,
très, très
sa
cher.
Mère.
Très cher.
Mais j'ai un pote qui a un très bon plan. Il a un 50 mètres carrés dans le Marais qui paye rien, parce qu'il est gardien d'immeuble et c'est son logement de fonction. Et du coup, son métier, c'est être gardien d'immeuble, gérer les poubelles et les colis, et il passe sa vie dans son 50 mètres carrés avec parquet.
Mais au rez-de-chaussée.
Du Marais. Non, au quatrième étage.
Ah, bon plan.
Non, il est très bien. Il a un chien, un chat, il vit sa best life. C'est un duplex. Bref.
Et il est célibataire?
Non. Ah, peut-être maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelle.
Ok, je note.
Il est peut-être disponible, mais une personnalité quand même assez intense, ma foi.
C'est pas grave, je m'adapte.
Très bien. On verra si je te le souhaite ou pas. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question qui me permet, comme d'habitude, de mieux vous connaître. Là, c'est le moment où, Kevin, je pense que tu vas être plus spectateur qu'autre chose, sauf surprise, puisque c'est le moment de vous demander si vous avez des commentaires sur votre dernier passage dans Laisse-moi kiffer. Et Anthony, tu m'as déjà dit que tu en as un assez long, donc let's go.
Oui, j'en ai un assez long, mais adorable, parce qu'en fait, dans ma dernière participation à LMK, j'avais dit que je voulais bien des recommandations de musique de Noël. Du coup, j'en ai reçu plein de plusieurs personnes, donc merci beaucoup. Voilà, donc mon Instagram c'est Anthony, ANTHONYVNCT, comme Anthony Vincent. Et parmi ces dédicaces, donc j'ai reçu plein de playlists hyper personnalisées et tout, donc genre, je suis hyper honoré, ça me fait trop plaisir. Et il y a une jeune personne qui s'appelle Caillou, C-A-I-U, sur Instagram, Caillou Kick, qui m'a fait une longue playlist et qui m'a aussi dit une dédicace à faire. Du coup, je peux le faire ici, c'est bon?
Oui, let's go.
Non mais notamment, elle m'a recommandé du reggae de Noël, et c'était trop bien.
Incroyable,
genre, bien. J'aime trop.
On va vous mettre un petit extrait de reggae de Noël grâce au pouvoir du montage et de Matisse.
Oh waouh.
Waouh.
On n'arrête pas le progrès.
Let's go pour la dédicace.
Et donc Caillou me raconte, voilà, je te souhaite une excellente écoute. J'en profite pour te remercier ainsi que toute l'équipe de LMK pour égayer tant de vies dont la mienne. Et pour finir, si tu peux faire une dédicace à la personne qui m'a fait découvrir LMK, elle s'appelle Mélissa et elle est dresseuse de bourdon. C'est même pas une blague, elle
Mélissa
fait de la recherche.
Mélissa, appelle-nous, viens dans Laisse-moi kiffer, s'il te plaît. On dirait un peu une invitation au dîner de con, dit comme ça, mais pas du tout. Je suis sincèrement passionnée déjà de ta vie.
Genre les bourdons, genre comme les abeilles, quoi. C'est même pas une blague, elle fait de la recherche sur les insectes et elle dresse des bourdons. Je te jure, c'est une queen. Merci pour tout. Oh, et le pseudo qu'utilise et que Mélissa pourra reconnaître, c'est Caillou, et ça se prononce Caillou comme une pierre, parce qu'il y a bien des gens qui s'appellent Pierre. Après, je pense qu'elle pourra se reconnaître en tant que reine des bourdons, en vrai. C'est pas commun comme activité. Et ça, c'est clair. Donc, merci Caillou et merci les bourdons et bienvenue.
Incroyable.
Et Mélissa, contacte-nous, s'il te plaît.
Voilà, laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. C'est une vraie adresse mail. On t'attend dans les DM.
Bzz, bzz, bzz.
Kalindi, est-ce que tu as un commentaire?
Oui, mais il est relatif à un très très vieil épisode. Mais c'est pas grave, il date d'il y a 3 jours.
On va mettre
alors c'est une personne, exactement, une personne qui s'appelle Martin, qui me dit « Salut Kalindi, j'ai failli t'appeler Cal, mais je ne sais pas si tu aurais été d'accord, ô grande prêtresse des terres-mères. Déjà, merci beaucoup. Il est vrai que je pratique le terre-mère comme peu de gens. »
Mais du coup, t'aurais été d'accord pour Cal ou pas?
Oui, bien
que
sûr.
Des paysans t'appellent Cal.
Cal que Kalindi, en vrai.
Ou Kalala.
Oh non, vraiment pas Kalala. J'ai un petit commentaire pour LMK. Je suis en train de me retaper l'intégralité des épisodes, déjà, bravo à toi, de LMK. Et tu as fait une incroyable imitation de Véronique Sanson, qui, contrairement à ce que dit Djibril Drixé, rappelez-vous que c'est comme ça qu'on appelait...
Et non, c'est pas comme ça qu'on appelait Cédric, c'est comme ça que tu appelais Cédric. Il y avait que toi qui
l'appelais comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai appelé Cédric il y a quelques années. Et c'était incroyable, ça m'a rappelé que nous possédons la même passion pour cet artiste de talent. J'adore sa musique et j'ai récemment découvert sa chanson Baya, qui date vraiment des années 70. Patrice. Elle est géniale. Du coup, si tu ne la connais pas, je t'incite à l'écouter. Des bisous sur la truffe du maréchal, qui est mon chat personnel. Merci Martin. Je ne me souvenais même pas que j'avais imité Véronique Sanson dans un épisode.
Je n'ai aucune espèce de souvenir de cette occurrence. Je
ne sais pas. Voilà. Merci Martin. Il y a vraiment plein de gens qui m'écrivent en ce moment qui se refont tous les LMK. Et c'est
pourtant,
hyper courageux.
On n'a pas lâché le rythme, on est toujours là toutes les semaines. Ouais. Ah d'ailleurs, grande annonce, cher LM Crado, il n'y aura normalement, si tout va bien et qu'on ne se prend pas le Covid dans la gueule sa mère, il n'y aura pas de pause de LMK pendant les vacances de Noël. Vous aurez un épisode par semaine jusqu'à ce qu'on revienne début janvier, même si on va tous et toutes prendre quelques jours quand même pour les fêtes. Normalement, ça va le faire, on a pris l'avance. Voilà. Du coup, big up à celles et ceux qui écouteront cet épisode dans 3 ans quand ils seront en train de se refaire LMK depuis le début et qu'on en sera à l'épisode 382. Moi, j'ai un commentaire, un DM de Justine NKZ qui me dit, c'est toujours mes DM préférés, n'hésitez pas à m'en envoyer plein. Coucou Mimi, ravi d'entendre sur LMK que mon amoureux n'est pas le seul spécialiste des expressions ratées. Dans son palmarès, le gars c'est plus senti pisser des ailes et faut pas me prendre pour un hamster de 3 mois. Bisous à Soraya. Soraya étant ma meilleure pote, adepte des expressions ratées, qui croyait que le poteau rose c'était un poteau rose.
Yes.
Et qui était très fière d'elle.
Se laisser se sentir pisser des ailes.
Faut pas
c'est incroyable.
Il se sent pas pisser des ailes. On voit la racine, on voit la construction mentale qui a mené à ce moment. C'est l'heure d'une anecdote.
Non, mais je suis pas sûre de voir la racine, genre se laisser pisser. Pas...
Enfin, alors, il sent plus pisser et se sentir pousser des ailes. Et il y a un mix de tout ça qui fait une expression un peu chimérique. On a une anecdote de star.
Ah oui.
Pour t'expliquer le, je pense qu'elle va te plaire. Pour t'expliquer le concept, c'est une anecdote avec une star, donc soit une anecdote bof, genre j'ai pris l'ascenseur avec Nicolas Sarkozy, soit une star bof, genre j'ai pris l'ascenseur avec Nicolas Sarkozy. Faut pas que ça soit genre ouais trop cool, j'ai été à Starbucks avec Beyoncé, c'était super, parce que sinon tout le monde a juste le seum. Faut qu'il y ait un petit peu d'empathie pour ce moment nul ou ce moment avec une personne bof.
Tu penses que quand Beyoncé va au Starbucks, les gens écrivent mal son nom?
J'espère.
Ah ouais, franchement, c'est
une bonne question.
Ce serait une justice, tu vois, ce serait vraiment la justice de. Ouais.
Qu'elle soit un peu humaine quand même, quelque part, comme nous. On a Octomove qui dit « Hello, j'ai une anecdote de star, c'est mon père qui me l'a raconté parce que moi je ne m'en souviens pas. Il y a bien 20 ans, ma famille était invitée d'honneur sur le plateau du Téléthon du fait de la maladie de mon frère. Pendant une publicité, mon père me présente un grand monsieur et me demande de lui faire un bisou. Le monsieur m'impressionne, je refuse, mon père insiste et ça finit dans les pleurs de mon côté, dans les cris du côté de mon père. Le dit monsieur, apparemment ultra mal à l'aise et ça se comprend, s'en va. Bref, j'ai foutu un vent à Thierry Lhermitte. » J'aime tellement Thierry Lhermitte, j'aurais bien aimé lui faire un câlin quand j'étais petite.
Il me fait penser. Que c'est le seul du Splendide à pas être radin. Vous saurez. J'ai appris ça pas plus tard que la semaine dernière.
Mais toi, tu es dans tous les potins de stars. Hein. Sinon, je vous souhaite de continuer ce podcast encore des années. Je vous suis depuis le début et je vous surkiffe. Eh bien, Octomove, on n'a pas prévu d'arrêter, donc ça tombe très bien. On est toujours là.
Merci Octomove. Non, c'est vrai, il paraît vraiment que Marianne Chazelle, par exemple, est très très radine et qu'elle ne voulait pas payer de coups aux autres sur le tournage des Bronzés Fondus Ski, contrairement à Thierry Lhermitte, qui lui était en train de payer ses tournées.
Il rince le vin chaud, lui. Mais tu vois, je sais, c'est parce que j'ai de l'affection pour lui dans mon cœur, je pense qu'elle vient de. Je sens cette générosité.
Mais moi, je trouve qu'elle. Elle transpire par tous ses pores, ouais.
Oui.
J'adore
les moments Thierry Lhermitte. On a des références de plus en plus boomer dans ce podcast.
C'est
chaud.
Un peu dramatique.
Limite, Damien Sargue, Thierry Lhermitte. On va finir vraiment très
Véronique
loin sur Patrick Sébastien. Véronique Sanson. Le podcast des trentenaires. C'est l'heure, avant de passer au kiff proprement dit, de boucler cette intro avec le moment que vous attendez tous et toutes chaque semaine. Le message boubou, le message
réré,
le message bourré. Tout simplement des auditeurs et des auditrices qui nous envoient un petit audio quand ils sont reb. Alors, petit warning quand même pour vous les LM Crado. Mathis m'a dit, on en reçoit plein en ce moment. Donc, faites gaffe à vous, il y a les fêtes qui arrivent, ce sera déjà, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Vous retournez pas non plus trop la gueule trop souvent. Mais une fois de temps en temps, si vous pensez à nous, envoyez-nous un audio comme ça.
Allô, bonsoir mademoiselle. Je sais pas si c'est le bon moyen pour laisser un message boubou, un message rêvé. Mais sachez que, oh, j'espère que je me trompe pas, et je suis désolée si je me trompe, mais sachez que j'ai passé une journée de merde aujourd'hui, comme ça m'arrive un peu souvent au travail, et que mon petit rayon de soleil dans la vie, c'est de vous entendre, et vous me faites énormément rire, et Mimi, je t'aime trop parce que tu es genre La personne qui m'a le plus montré ce qu'était le féminisme et qui a permis mon épanouissement émotionnel et sexuel. Merci énormément, Mimi. Et au-delà de ça, merci pour... Ah, mais il n'y a pas la suite. Non, je tenais vraiment juste à dire que je suis à La Réunion et vous faire part que même à La Réunion, sur l'île de La Réunion, on vous écoute et on vous aime trop fort. Bisous.
Trop mimes.
Trop chou. Est-ce que tu te fendrais de ton plus beau Hi La Réunion?
Hi La Réunion.
Merci, c'est parti très vite.
Mais dis donc, t'en as inspiré du monde, Mimi.
Ah bah écoute, l'épanouissement sexuellement des gens, ouais. c'est ma vocation, tu sais.
J'aime bien comment chaque semaine, il y a le même problème de Instagram ken la gueule des gens qui veulent faire des longs messages.
Il y a toujours chaque fois, y a ce petit blanc à 59 secondes.
Ouais.
Bah quand t'es boubou, c'est compliqué de garder en tête où on en est, quoi.
Et est-ce que Instagram te dit genre, attention, je coupe?
Non.
Ça
qui non,
c'est
très mal.
C'est pareil sur Messenger, Facebook Messenger, c'est pareil, ouais.
Il y a des gens qui envoient des audios sur Messenger.
Ouais, moi ça m'arrive
des fois. Mais du coup, si c'est long, je passe sur WhatsApp parce qu'il n'y a pas de limite de temps.
Ouais, en plus WhatsApp, tu peux mettre en accéléré et ça, c'est génial.
Yes, c'est vrai, tout à fait.
x1,50 et x2.
Moi je fais x2.
Vous avez
tout le temps. Spotify, tu peux faire x3. Les podcasts chiants, x3.
Ah ouais, non, mais attends, mais x3, c'est en intraveineuse dans ton cerveau.
Moi j'écoute tout en au moins 1,25, sauf les podcasts musicaux.
Mais c'est
musicaux.
Dingue. Vous avez à ce point-là peur de perdre du temps?
Bah, c'est-à-dire que moi, je parle vite et je trouve que les gens parlent trop lentement, cherchent trop ce qu'ils veulent dire et tout. Donc, ouais, tu peux en écouter plus et ouais, c'est cool.
Oh là là, moi, je parle super vite. Toi, tu parles vite. Anthony parle vite. Kalindi, elle parle fort. Ça va être un épisode délicieux.
Mais Kalindi, comme tu t'articules super bien, toi, en x2, voire x3.
C'est pas vrai, hein. Mais j'ai pas fouillé tout à l'heure sur Twitch.
Regarde tes cours de théâtre. T'as aussi cassé un verre, non, sur Twitch?
Tout à fait. Je suis arrivée avec ma flûte à champagne qui contenait de l'eau pétillante. Et en fait, je venais de dire que j'avais une énorme gueule de bois. Et ce faisant, j'ai fait un geste et j'ai rompu la flûte sur le sol.
Très bien.
Le geste a accompagné la parole.
RIP la flûte.
RIP la flûte.
Écoutez, c'est l'heure de passer au kiff. Mais avant ça, jingle.
Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire des mèmes en gif. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de lâcher vos kiffs et de se détendre du sif. Ah oh ouais.
Wow, merci Valentin.
Oh là là, quel bel unisson. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Anthony, à toi l'honneur, mon cher, quel est ton kiff cette semaine?
Je vais faire un triple kiff en parlant vite, mais en articulant, comme ça ne sera pas trop long.
Prends ton temps, tu sais quoi? On a fait une intro de seulement 17 minutes au lieu de 33, donc ça va.
Quelle concision, vraiment. Du coup, je voudrais faire un mini-kiff sur les visites du Paris Noir, quand même.
Allez!
Parce que ça va vous aider à comprendre un peu plus concrètement comment ça se passe. Donc, en gros, je suis allé visiter Paris avec Kevin Donna, le Paris Noir, sur Instagram.
Incroyable.
Pour essayer de comprendre le Paris des personnalités noires qui l'ont fait, hein, parce que Paris, comme le reste de la France, il y a une grande contribution des personnes noires afro-péennes. Et donc, moi, j'ai fait la visite rive gauche. Donc, il y a deux visites principales. Il y a rive gauche et rive droite. Mais il y en a d'autres aussi, hein, mais Kevin en parlera lui-même. Et j'ai fait la visite rive gauche qui partait du jardin des plantes. Du Panthéon. Et on arrivait jusqu'au jardin du Luxembourg. Et c'était hyper intéressant parce que moi, j'avais plein de figures en tête d'intellectuels noirs français, parce qu'il en existe évidemment. Mais j'avais jamais fait le lien. Du coup, j'avais toute cette histoire comme plein de pointillés. Et cette visite, ça a lié les pointillés et j'ai senti une forme de filiation aussi avec ces personnalités-là. Et c'était hyper enrichissant, épanouissant. Et aussi, ça fait un petit rappel d'histoire aussi. Donc, c'est hyper intéressant. Et voilà. Donc, c'était génial. Et en plus, on était un groupe de personnes. Bon, il y avait beaucoup de personnes noires dans cette visite, évidemment. Mais c'est ouvert à toutes et tous, hein, évidemment. mais c'était hyper enthousiasmant aussi de sentir cette connexion entre nous. Et donc voilà, j'ai adoré. Ça, c'était le micro-kiff d'introduction.
Merci.
C'est mérité. C'était incontournable. Bravo.
Et sinon, j'ai des nouvelles lunettes de soleil. Et je voulais juste dire que je kiffe.
sans transition.
Dans la référence.
Voilà, parce que pour essayer de mieux voir dans la vie, ça aide. Du coup, c'est une marque qui s'appelle Romarin Paris, comme les branches de Romarin.
J'adore déjà.
Voilà, c'est un mec qui a fait ça, qui s'appelle Driss Farhas. Et du coup, moi, je pensais que j'avais... En fait, j'ai jamais trop su choisir des lunettes. Et récemment,
moi non plus.
C'est trop intéressant parce que il y a plein d'opticiens qui sont censés être visagistes, mais ils donnent de mauvais conseils parce que c'est des commerciaux et ils veulent te vendre forcément la monture la plus chère et pas forcément celle qui t'avait le mieux. Et là, donc, Romarin Paris, Romarin, la marque, mais la boutique, en fait, c'est l'atelier des lunettes, il me semble. Et donc, il y a 2-3 boutiques d'opticiens comme ça à Paris. Et ben en fait quand j'y suis allé, je leur ai dit mais en fait ça trouve vous mitonnez et vous me vendez des lunettes juste parce que la monture est chère et que ça vous fait du chiffre et pas forcément des lunettes qui me vont au visage. Et ils m'ont dit non.
Putain, Élise Lucet des opticiens quoi. On ne la lui fait pas. Attention.
Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire un truc juste avant, donc j'en avais fait un papier sur Mademoiselle, mais en gros ma grosse galère c'est que j'ai un nez assez plat et donc j'ai l'arête nasale pas très prononcée et les lunettes souvent elles glissent ou elles me font mal parce que du coup ça pince mon nez. Et du coup je me suis dit je crois que c'est Marine ou Audrey qui d'autres meufs de la rédac qui m'ont dit ouais ça serait intéressant d'en faire un article et tout. Et du coup j'ai enquêté pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a des lunettes qui vont pas à tous les nez, surtout les personnes noires et les personnes asiatiques. Et en gros c'est une question de plaquettes, donc les petits coussinets en plastoc que vous pouvez voir parfois sur certaines paires, ben ça c'est trop bien parce que ça maintient bien le nez mais ça fait des petites marques potentiellement sur le nez. Et il y a des montures en revanche qui n'ont pas de plaquettes et parce qu'elles sont faites en un seul bloc de plastique en acétate. L'acétate c'est une forme de plastique hyper qualitative. Et ça c'est trop joli, c'est assez solide parce que c'est en un seul bloc de plastique, mais ça va pas à tous les nez quoi. Et du coup ce que vous pouvez demander quand vous allez chez l'opticien c'est des Asian fit, des coupes pour les personnes asiatiques. C'est ça que ça veut dire Asian fit, mais ça va aux formes de nez à l'arête nasale pas très prononcée. Bref.
Mais comment on fait quand on a l'arête nasale trop prononcée?
Mais en fait justement, tu vas voir un bon opticien. Et donc ça c'est assez cool. Enfin moi j'ai été bien conseillé et tout. Enfin
moi j'ai un trop grand nez et j'ai les oreilles pas à la même hauteur, ce qui fait que peu importe les lunettes que je porte, ça ne va jamais. Parce qu'elles sont toujours de traviole sur ma tronche. Et
peut-être
en fait,
qu'ils peuvent
pendant
les
des années.
De traviole pour compenser, non?
Ben oui, mais à qui je vais voir pour faire
et
ça?
On
va aller voir ton ami.
L'atelier des lunettes. Voilà. J'étais dans la boutique de Belleville, qui est du coup du côté du métro Pyrénées à Paris. Mais sinon, ils en vendent aussi en ligne, hein, si vous n'êtes pas à Paris, évidemment. Mais bref, je m'égare. Du coup, j'ai des lunettes de star et maintenant, je veux tout le temps les mettre. Voilà. Et sinon.
Mais t'as une correction dessus?
Non, pas encore, mais je vais y retourner.
Parce que tu portes des lentilles ou...
Non, je porte des lunettes de vue, ouais, mais je les mets jamais parce que justement, elles me font mal. Et du coup, je pense que je vais prendre des lunettes de vue adaptées.
Yes.
Voilà. Et donc ça, c'était mon kiff principal, c'était avoir trouvé des lunettes de soleil pour l'hiver, parce que c'est assez stylé.
C'est très vrai, et j'oublie tout le temps d'en mettre en hiver parce que je suis un con. Et après, je vais à la montagne, je suis là, oh non, le regret. Je vais passer mon nouvel an à la montagne si tout se passe bien. Je vais essayer de glisser mes lunettes de soleil à ma vue, les premières de ma vie, dans mon sac à dos, en hommage à ton kiff.
Donc, c'est toujours un peu un somme de choisir. Moi, une fois, on m'a conseillé. Alors, une fois, on m'a dit que j'avais des problèmes de vue. J'étais ravie. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir porter des lunettes. C'était l'époque où on portait que des lunettes quand on avait besoin d'une correction. Aujourd'hui, tu peux en porter juste pour le style. Et elles sont juste, c'est juste des verres normaux, quoi.
Ou anti-lumière bleue par rapport aux écrans.
Exactement.
C'est hyper à la mode, ça.
Et genre, la personne qui m'a vendu les lunettes m'a vendu des lunettes papillons qui étaient sublimes, rouges à paillettes et tout. Elles étaient incroyables.
Véris-toi.
Véris-moi, enfin je les adorais et je me suis laissée berner justement par les qualités de vendeur de cette personne et en fait j'ai réalisé 3 mois après que c'était hideux sur ma tête. Donc
mais est-ce que c'est pas juste toi qui par exemple te coupe les cheveux et est incapable d'être contente plus d'une semaine de ta coupe?
C'est possible
avant de
que ça
changer.
Vienne de ma capacité à me lasser de tout très vite, c'est possible. Mais donc je vais aller voir cette personne pour me conseiller parce que c'est comme les coupes de cheveux, je trouve que les gens te font un peu ce qu'ils veulent et en fait tu sais pas vraiment si ça te va. Donc en fait voilà, c'est mon coup de gueule, j'aimerais que les gens soient un peu prennent leur métier à cœur et me disent vraiment si les choses me vont.
Bah là c'était le cas, ouais, l'atelier des lunettes et justement moi je lui ai dit, enfin j'ai rien dit et je lui ai dit mais du coup par rapport à mon visage, il me dit vous avez un visage assez long et anguleux, du coup ce qui peut vous aller c'est plutôt des lunettes rondes pour contrebalancer et tout, ça va complimenter votre visage. Et à un moment j'essaie une paire hyper carrée juste pour voir s'il me ment et il me dit non, ça vous va pas trop. Et je me dis, ah ok, en fait il est honnête, ouais, et cohérent.
J'ai pris une paire carrée très chère et il m'a quand même dit que ça m'allait pas.
Exactement.
Il a réussi le test.
Voilà, c'est un peu la stratégie, voir si votre opticien ou opticienne est une mytho ou pas. Et voilà. Et mon micro dernier kiff, et après j'arrête de parler, c'est que je suis allé voir le dernier Almodovar, qui est trop trop bien. Du coup, j'ai un accent pourri, mais c'est Madres Paralares, les mères parallèles.
Tout à fait.
Et c'est vraiment un sublime film, je vous le recommande chaudement. Il y a Penelope Cruz qui est géniale dedans, et il y a une autre actrice dont je ne connais pas le nom, je crois que c'est Milena Smith, voilà. Une ancienne mannequin, et ça se voit. Et en fait, à un moment, elle joue une serveuse, mais elle est habillée que en Chanel et en Miu Miu, du coup, c'est pas très crédible, mais il y a que moi qui ai l'œil pour repérer ça.
Oui, je suis pas sûre que ça va déranger tout le monde, mais c'est bien de le dire.
Ouais, on nous ment. On nous ment.
De la mode dans les films aussi.
Et voilà, c'est l'histoire de bébé. Bon, ça, c'est vraiment le début, donc c'est pas vraiment un spoil, mais de bébé échangé à la naissance, on s'en doute dès le titre et dès la scène d'ouverture. Mais ensuite, ça devient un peu une espèce de thriller sur la maternité, la filiation, qu'est-ce que c'est que la transmission de génération en génération, qu'est-ce que c'est que l'inné versus l'acquis, c'est hyper intéressant. Et c'est sur une toile de fond historique par rapport à l'Espagne, les traumatismes causés par Franco. Donc en fait, c'est trop bien et ça invite à réviser l'histoire parce qu'en fait, moi j'y connaissais rien. Du
mais
coup,
réviser avant d'y aller, parce qu'on le disait avec Anthony tout à l'heure, si on n'a aucun souvenir de ces cours sur l'histoire de l'histoire de l'Espagne, t'es un peu largué.
Okay.
Enfin, donc n'hésitez pas à lire ne serait-ce que la page Wikipédia avant, parce que
tout
ça
à fait. Ou vous écoutez un petit podcast sur Franco, un petit truc en 4 heures là de France Culture. Et
en vitesse fois 2.
En vitesse fois 3 sur Spotify.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mais si vous allez checker l'histoire après coup, ça reste compréhensible, hein, ça gêne pas du tout la compréhension du film. C'est vraiment une toile de fond, ce contexte historique qui aide à comprendre l'importance, la gravité des enjeux. Mais sans ça, on comprend très bien aussi l'histoire. Et surtout les comédiens, mais elles sont géniales et géniaux. Et il y a Rosie De Palma qui a un rôle secondaire qui apparaît 2 fois 30 secondes, mais c'est les meilleures 30 secondes du film, je trouve.
Enfin, la meilleure minute de toutes ces minutes.
Oui, elle est archi drôle. Elle joue une rédactrice en chef d'un magazine de mode, du coup je l'ai beaucoup trop aimée. Et il y a aussi une mère qui joue une comédienne de théâtre et elle est archi bourre, ça me fait beaucoup trop rire, enfin allez le voir, voilà.
Ah bah c'est bien de dire qu'on rigole quand même parce que j'avais pas trop la vibe d'une comédie.
On rigole peu quand... Pitch. Non, on rigole peu, hein. La vérité, on rigole peu.
Non, on va pas dire aux gens qu'on se tape des barres.
Bah, on rigole un petit peu, oui.
Alors,
non mais c'est pas un drame.
Un petit peu.
Moi j'ai vécu ça comme un drame, franchement, mais c'est peut-être moi qui étais fatiguée ce jour-là. J'ai pas trouvé ça très drôle, mais c'est vrai que Rosie De Palma est toujours extraordinaire, mais je me suis pas marrée devant le film.
C'est une dramédie assez lesbienne sur les bords, enfin, c'est assez drôle.
Et il spoil
ça, non, il y a pas de spoil.
Moi ça m'intrigue parce que j'ai beaucoup aimé Almodovar, mais ça doit faire 10 ans que j'ai pas vu. Almodovar, donc ouais, tu m'as convaincu. Je pense que je vais aller voir.
Je crois qu'il est plutôt constant en termes de qualité.
Ouais, tous les ans et demi, 2 ans. Là, ouais, le dernier, c'était Douleur et Gloire, et c'était pile poil il y a 2 ans, je crois, pour Cannes.
Et on a 2 recos à vous mettre dans les notes du podcast concernant ce film. La première, c'est la critique du film dont je ne vais pas prononcer le titre car j'ai fait allemand LV2. La critique du Almodovar par Camille Abeille qui a rejoint l'équipe de Daron chez Mademoiselle, la verticale parentalité, et qui est elle-même mère de 2 jumeaux. Donc elle est concernée par le sujet assez directement. Alors on a fait une très jolie critique et on a, de façon un peu plus globale, une ode de Kalindi aux femmes vues par Almodovar et à la façon dont Almodovar filme les femmes en n'étant pas un gros malaisant, qui est très agréable à lire. Donc on vous met les liens dans les notes. Merci Anthony pour tous ces kiffs. C'est vrai qu'il a débordé, vraiment. C'est vrai que personne m'a envoyé ses kiffs en avance cette semaine, j'ai pas ralenti. Et c'est parce que t'en avais 8.
Et encore, je me suis contenu. J'avais d'autres recommandations de cabaret et tout, mais pour une prochaine fois.
Pour de prochains épisodes. Ah, j'ai une reco lunettes, du coup, pour continuer Romarin Paris, si jamais ça ne vous va pas. Moi, j'ai été très très bien conseillée chez Jimmy Fairly pour Montorgueil, qui est une chaîne de trucs de lunettes un peu bobo, pour mes premières lunettes de ma vie que j'ai depuis 2 mois, où vraiment, le gars, je lui ai dit, bon, c'est mes premières lunettes, et il était là, ok, c'est mon projet, let's go, on fait que ça, il n'y avait personne dans le magasin en plus. J'ai eu un café, des bonbons, et il a passé vraiment 25 minutes à me sortir la moitié de sa réserve, et à prendre note de qu'est-ce que j'aimais pas dans chaque paire pour ne pas m'en donner avec le même truc, c'était très bien. Et il a mis de côté toutes celles où il y avait une chance, et à la fin il m'a laissé choisir, il était là, au top. Donc voilà, Jimmy Fairly, ça conseille très bien aussi. Si vous ne savez pas quel type de lunettes va aller à votre petite bouille. Kévi.
Oui, alors.
Quel est ton premier kiff?
Ouais, bah, en fait, j'en ai qu'un gros, mais.
C'est bien parce que c'est ça la règle du podcast
oui,
en fait.
Ah oui, non, c'est pas que qu'un seul kiff, mais c'est ouais. Le premier kiff de ta vie puisque c'est ta première fois dans l'espace.
Exactement. Non, moi, c'est la ville d'Amsterdam.
J'y étais. Je vais avoir envie de voyager.
Ouais, voilà, j'y étais déjà là avant, mais là, j'y étais récemment invité pour une sorte de symposium avec des
classe,
gens.
Le mot
qui...
symposium.
C'est quoi un symposium?
C'est comme une sorte de congrès qui se la pète.
Comme un colloque.
Voilà. Et en fait, c'était avec des gens qui présentent leur ville de façon un peu différente. Et on a fait plein d'activités mortelles qui sortent un peu de, tu vois, de Amsterdam, quartier rouge, les coffees, tout ça.
La weed.
Ah, la weed, la drogue. Non, en fait, là, c'était vachement bien parce que, en fait, ça a notamment abordé des sujets qui m'intéressent. Hashtag islamo-gauchisme. Et un gros
le
big up.
Le dans laisse-moi kiffer et vous le savez déjà.
Et j'imaginais pas du tout la ville d'Amsterdam aussi en pointe sur ces questions-là par rapport à Paris. En fait, quand j'y étais, c'était la nuit des musée. Et en fait, on a pu visiter, grâce à la curatrice du musée, une exposition assez extraordinaire qui continue encore, qui est sur le carrosse royal de la famille royale hollandaise. Et en fait, c'est un cadeau qui leur a été offert au 19e siècle. Et en fait, le carrosse est assez problématique. C'est-à-dire que les portières, on va dire, du carrosse représentent les peuples colonisés soumis à la famille royale,
oh
un peu
non.
Les gens du Suriname, de l'Indonésie, etc.
Ils ont fait une bagnole raciste.
Voilà.
Dur.
Et du coup, il y a quelques années, le carrosse devait partir en rénovation parce qu'il était, je sais pas, il y avait des trucs à changer. Et il y a des militants antiracistes qui leur ont dit, les gars, attendez, enfin, votre carrosse, quand même, c'est un petit peu problématique.
Quitte à changer des trucs, est-ce qu'on pourrait pas changer des trucs?
Eh ben, en fait, ils ont rien changé du tout. Ils ont juste décidé d'utiliser le carrosse au musée d'Amsterdam pour faire une exposition sur l'histoire du colonialisme néerlandais avec un regard super critique. Et donc, donc il y a des gens du musée qui nous ont fait visiter, c'était vachement bien. Et comme c'était la nuit des musées, il y avait des activités un peu spéciales dans le musée, notamment autour du carrosse, une militante LGBT Black Lives Matter qui s'appelle Naomi Peters et qui a fait une espèce de cérémonie, on dirait presque vaudou, autour du carrosse royal, en proposant aux gens de leur laver les mains, etc. Un truc. Et en fait, donc, on était plusieurs gens de plusieurs pays d'Europe et on était tous un peu sur le cul de genre, mais ça pourrait pas se faire ça chez nous, ça ne passerait pas, ce serait impossible.
Je suis pas sûr qu'au Louvre, ils aient prévu de faire ça
voilà.
Tout de suite. Hein.
Et en fait, je discute avec les gens du musée et ils me disent que c'est des réflexions qui ont commencé en 2011, lorsqu'en fait, ils ont décidé de changer le nom d'une pièce. Le nom d'une salle plutôt du musée qui s'appelait l'âge d'or, le siècle d'or. Et donc il y a des militants qui leur ont dit, enfin le siècle d'or, vous voulez dire, enfin ça c'est quand même pas mal accompagné de gens que vous avez violés, pillés.
Le siècle d'or pour qui finalement?
Voilà. Et donc ils ont fait, ah ouais non j'avoue, chaud. Donc ils ont rebaptisé la salle et l'ont juste appelé 17e siècle. Ce qui n'était pas difficile, hein, c'est ce qui
idée
est factuel, ce qui n'était pas très difficile. Et donc le premier ministre de l'époque apprend ça et il pète un câble en disant, mais c'est un scandale! On peut plus être fier d'être néerlandais.
On peut plus rien dire.
On peut plus rien
dire. Le pronoriel, oh là là.
La cancel culture.
On peut plus faire de blackface, puisqu'ils ont le fameux Zwartepiet, oui. Vous savez, en décembre, où ça se grime en personnage noir, etc. Donc, le premier ministre commence à péter un câble et le musée a tenu bon. Et donc, je dis à la curatrice, mais, ça veut dire que chez vous, le monde de la culture a beaucoup d'indépendance par rapport aux politiques. Elle se retourne, elle me regarde, elle me fait « Oui, je sais que ce sera impossible en France, ce genre... »
Elle a déjà eu cette conversation.
Bam et voilà, en fait, c'était assez intéressant de... Je ne suis pas en train d'idéaliser les Pays-Bas en disant qu'il n'y a pas de problème là-bas, mais c'était très intéressant de voir un pays qui finalement n'est pas si éloigné, qui est une monarchie, donc on imagine beaucoup plus vieillot, beaucoup plus machin, etc., et qui est beaucoup plus ouvert sur ces questions-là. Donc j'ai rencontré des militants, des gens du Black Archives d'Amsterdam, enfin plein de trucs hyper intéressants, et j'étais ravi de découvrir Amsterdam sous cet angle-là, et ça m'a fait kiffer, et c'est assez à la fois inspirant, et un petit peu aussi, ça remet un petit peu aussi à sa place, la France qui toujours donne des leçons aux autres, de vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous êtes pas comme nous, vous êtes pas aussi
libre. Mais on est le pays des lumières qui ne voit pas les couleurs, donc nous,
exactement.
Nous ça va.
Exactement, mais voilà, donc Amsterdam m'a bien plu, et puis on a été bien accueillis, et c'est une ville magnifique. Je vais
trop
retourner.
Cool.
Mais est-ce que t'as bien mangé?
J'allais dire, on y mange bien.
Ouais, j'ai plutôt bien mangé. Alors que toutes les fois où j'étais à Amsterdam, bon, j'avais pas spécialement été impressionné par la gastronomie. Et là, ils nous ont emmenés dans des spots assez sympas. On a mangé des trucs cool. Moi, je suis pas végétarien ou vegan, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'options alternatives, vegan, tout ça. Mais en même temps, des plein de trucs, du poulpe, des machins. Enfin, vraiment, non, Amsterdam, allez-y et n'y allez pas que pour que pour les coffee shops, la drogue, tout ça. Il y a des trucs culturels intéressants et ambitieux.
Mais je pense que c'est un bon plan pour les gens qui veulent voyager un peu différemment, de chercher justement les visites guidées alternatives des villes. Bon, il y a plein de trucs, genre un peu, je sais pas, la visite guidée du Paris un peu spooky par exemple, mais en fait il y a des choses comme le Paris noir qui vont vraiment te faire voir des facettes qui seront pas du tout les mêmes que tous les autres touristes, et il y a rien de mal à faire les trucs touristiques si les gens veulent aller au coffee shop tant qu'ils sont respectueux des habitants, ou qu'ils veulent voir la Tour Eiffel et le coucher de soleil sur le Sacré-Cœur, faites-vous plaisir. Mais ça peut être une bonne alternative pour soit revoir un endroit qu'on a déjà vu, soit découvrir un truc différemment, quoi. Quitte à se dire, je vais pas forcément faire le Louvre et le Sacré-Cœur, mais je vais aller voir un autre Paris. C'est toujours cool. Et du coup, t'as l'air d'avoir vu un Amsterdam plutôt chouette.
Carrément.
Ouais, de ouf. Enfin, je reviens un petit peu à ma visite du Paris noir, mais. Moi, justement, j'ai étudié à la Sorbonne, donc...
Tu veux dire que tu continues ton kiff?
Désolé. Petite parenthèse.
T'inquiète, vas-y.
Mais tu vois, j'avais étudié à la Sorbonne, je passais ma vie dans le 5e et au Jardin du Luxembourg, et je faisais plein de déj là-bas, plein de soirées là-bas et tout. Et en fait, quand j'étais à la visite avec Evie, bah, en fait, il a montré à tout le groupe une sculpture en mémoire de l'esclavage, et je l'avais jamais vue, en fait, alors que je passais ma vie là-bas. Et je me suis dit, mais en fait, même quand on croit connaître une ville, bah, c'est cool aussi de la redécouvrir autrement, par les yeux de quelqu'un d'autre, expert ou experte de la question. Et c'est, même pour les gens qui vivent à Paris, ça peut être chouette de faire ce genre de visite, quoi.
Carrément. Bah, j'avais parlé dans Laisse-moi kiffer, on parlait de la Butte aux Cailles tout à l'heure, qui est un endroit dans le 13e où il y a beaucoup de street art. Et j'avais fait la visite guidée de Feminists of Paris, qui s'appelle maintenant Feminists in the City, qui sont à la base des étudiantes à la Sorbonne, d'ailleurs, je crois, ou à Sciences Po. Sciences Po, je crois, qui ont lancé des visites guidées féministes de Paris et qui, du coup, en avaient une autour du street art. Et j'ai appris plein de trucs, notamment qu'un symbole que je vois partout, un genre de A noir avec un cœur, c'est un truc anarchiste en hommage à Louise Michel. Et j'étais là, incroyable, je ne savais pas. Et vraiment, maintenant, à chaque fois que je le vois, j'ai l'info. Et je crois qu'elles ont repris aussi, puisque on peut aller dehors maintenant. Donc je pense que ça peut être un bon week-end de faire le Paris noir, Féministes in the City. Et après, on a appris plein de choses sur Paris et on peut aller manger des bonnes choses.
Wow. Très important.
Merci pour ce kiff, Kevin.
C'était très bien, c'était très concis et très rapide, en effet.
Merci. Ouais,
je le prends personnellement, Kalindi.
En parlant de concision...
Pas du tout, je suis jalouse. J'aurais voulu faire plusieurs kiffs, je savais pas qu'on avait encore le droit.
Tu peux en glisser un bonus si tu veux, si tu es inspirée. Mais Kalindi, quel est ton kiff ou quels
Mon
sont
kiff principal, écoutez, une fois n'est pas coutume, c'est une BD japonaise. En fait, je lisais plus de BD depuis des années. C'était quelque chose que je lisais que quand j'étais genre ado. Et je lis toujours beaucoup de romans, mais la BD, je sais pas pourquoi, j'avais complètement arrêté sitôt que je suis devenue adulte. Et en fait, mon coloc a une passion pour les BD, et surtout une passion pour les BD japonaises. Et il se trouve que dans ma rue, il y a une super boutique de BD qui s'appelle Manga Space, tout simplement, qui a ouvert. Et mon coloc m'y a emmené samedi, on a fait une razzia, j'ai dépensé 180 euros alors que je suis déjà
c'est
à moins 300 euros.
C'est pour ça que je ne lis plus de BD parce que ça chiffre trop vite.
Ça coûte extrêmement cher, mais en fait je comprends, enfin, c'est un tel travail, c'est tellement beau. Enfin, moi j'étais, franchement ça ne me dérange pas de mettre 30 balles dans un objet qui est si joli, qui va me servir à la fois pour me divertir et à la fois qui va faire joli sur mon étagère, tu vois.
Si on peut se raconter un peu avec.
Exactement.
C'est bonus.
Et donc la BD, alors c'est une BD que j'ai pas lue cette semaine, mais genre le mois dernier que j'avais piqué donc à Kevin. S'appelle Quartier lointain.
Ah, quel plaisir.
Ah oui, bien sûr, bien
ah, mais
sûr.
Mais vous
oui.
connaissez
ouais, ouais, ouais,
c'est
ouais, ouais,
très cool.
Ah bon
c'est très
bien.
Mais moi, je crois que c'est un truc hyper niche.
Non,
c'est
non,
comme
non,
je
non,
disais,
quand j'ai 15 ans. Ouais,
j'ai,
ouais.
J'ai lu un petit roman, là, L'étranger de Camus. C'est
ah
vraiment
bon,
super.
C'est vraiment
et c'est marrant parce que
ça.
La BD était à mon coloc de l'époque.
C'est vrai
ouais, ouais, incroyable.
Et t'as Kevin, ton coloc, Kevin.
Non, non, il s'appelait Arthur, donc non, c'est pas...
Ah, je te souhaite pas Kevin. Mais tu nous écoutes, mon chat. Donc, de Jiro Taniguchi. Eh bien, écoutez, moi, j'avais jamais entendu parler de cette BD. J'ai découvert sur ma table basse, à côté de Suis-je hypersensible, qui est le bouquin de chevet de mon coloc. Et je lui laissais un petit post-it pour lui répondre oui, puisque je pense que quand on lit ça, c'est qu'on l'est, tu vois. Et donc, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Hiroshi, qui a, je crois, 45 ou 50 balais. Et qui, en fait, un jour, veut prendre le train pour aller bosser. Et en fait, il déconnecte un peu de... Enfin, il regarde par la fenêtre, il se rend pas trop compte qu'il a pas pris le bon train. Et en fait, il se retrouve dans son quartier où il a grandi quand il était petit. Et il se dit, bon, bah, écoutez, j'ai quelques heures avant de prendre le prochain train retour pour Tokyo. Du coup, je vais aller revoir un petit peu la ville qui m'a vu grandir. Et notamment le cimetière où est enterrée ma mère. Et donc, il va se balader dans le cimetière. Et là, il tombe dans les pommes. Et enfin, je vous raconte ça comme si vous connaissiez pas l'histoire. Je vais m'adresser à toi, Anthony, dans les yeux.
En vrai, je l'ai lu il y a très longtemps parce que j'ai fait mon stage de troisième dans une librairie BD manga. Et du coup, je l'ai lu à cette occasion. Je crois que je l'ai relu une fois au lycée, mais j'ai plus en tête toute l'intrigue. Donc, vas-y, je redécouvre.
Eh bien, elle est toute simple. Et donc, il fait un malaise. Et quand il se réveille, il regarde ses mains, ses jambes et tout. Et il se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de taches brunes sur les mains. Je suis tout élancé. Ben, il se regarde dans la glace. Et en fait, il a retrouvé le corps de ses 15 ans. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de rêver? Je suis sans doute en train de rêver, ça peut pas être autre chose. Et donc, il retourne dans la maison de son enfance et il voit ses parents qui sont décédés, sa grand-mère, sa petite sœur. Et il se rend compte que bah, il est bien revenu au moins 30 ans en arrière. Et il va essayer de profiter de ce retour en arrière pour sauver sa famille d'un drame qui est survenu quand il était petit. J'ai trouvé ça tellement joli, tellement poétique, les dessins sont sublimes, extrêmement fins. En fait, je suis assez difficile dans la BD parce que j'aime pas les styles un peu enfantins comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. J'ai du mal à rentrer dedans. Là, j'ai trouvé le dessin tellement fin et c'est tellement bien écrit parce que je trouve qu'aussi, l'écueil que je trouve un peu à la BD, c'est que souvent, le texte est un peu délaissé. Enfin, de ce que j'avais lu, moi, souvent, j'étais là, c'est un peu simple, la langue est pas magnifique, la langue est pas belle et moi, c'est ce que j'aime découvrir dans un roman notamment. Donc j'étais toujours un petit peu déçue. Et là, j'ai trouvé la langue très jolie. La traduction super. Enfin, vraiment, ça m'a... Du coup, je me suis acheté un autre bouquin de lui qui s'appelle Fougari au gré du vent. Est-ce que c'est un autre classique que je ne connaissais pas?
Non.
Je pense, pour moi, son autre, je crois qu'il a un autre classique qui est Mémoire de mon père, quelque chose comme ça, qui
ça,
devrait du coup
aussi
pas mal te plaire.
Ouais.
Et c'est marrant qu'il te plaise parce que c'est le mec qui fait les mangas qui plaisent aux gens qui aiment pas les mangas, tu vois. Comme les gens, ils aiment pas la fantasy, mais ils aiment bien Game of Thrones. Il y a un côté très mature dans ses mangas, très adulte, très poétique, où on dirait vraiment un roman, mais avec des très beaux dessins.
C'est ça, exactement.
Plus, mais ouf, à tous les niveaux. Donc, j'espère que ça va te réconcilier un peu avec le manga, mais il est clairement un peu ovni du genre, quoi. Et très, manga pour les adultes, alors qu'il y a plein de mangas qui sont quand même beaucoup plus à la destination des publics adolescents.
Non, mais en tout cas, ça m'a réconcilié avec le genre et du coup, je me suis acheté plein de BD. Je me suis acheté Nellie Bly sur la première femme journaliste à travailler pour le New Yorker qui s'est infiltrée dans des maisons des asiles psychiatriques aux États-Unis qui en fait étaient un lieu où juste on enfermait les femmes dont on ne voulait plus, par exemple un mari
comme
qui ne pouvait plus blairer sa
Kennedy.
Femme. Voilà, donc on allait laisser on les foutait dans ces espèces de mouroirs horribles où elles étaient torturées, violées parfois et tout. Donc et j'ai acheté plein de trucs, je suis ravie de m'être réconciliée avec ce genre. C'était un bonheur, c'était vraiment un angle mort de ma culture. Donc je suis ravie. Voilà, je pensais que j'allais sortir un truc hyper pointaxe. Je suis un peu dégoûtée, mais bon.
Pour quiconque lit du manga, c'est assez connu, mais c'est toujours un plaisir et on en a jamais parlé dans Laisse-moi kiffer. Cédric aurait été fier de
voilà.
toi. J'ai une reco pour toi, mon manga préféré, qui je pense va grave te plaire. Déjà parce que ça se passe en Allemagne, donc ça change de tous les trucs qui se passent au Japon. Ça s'appelle Monster. Ça existe en intégrale de 3 à 4 tomes, je crois, parce que sinon c'est sorti en petit. C'est par mon mangaka préféré qui s'appelle Naoki Urasawa, qui est trop fort. Et c'est un thriller où le héros, c'est un super bon chirurgien qui est japonais et qui travaille en Allemagne. Et il est torturé par le fait que des fois, on lui fait prioriser des patients pour des raisons de type il a plus de fric ou c'est le maire de la ville et que du coup, d'autres patients décèdent parce qu'il ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et du coup, à un moment, il y a un carnage dans une maison. Les parents sont assassinés. Il y a deux enfants qui sont, je crois, jumeaux, qui doivent avoir 8-9 ans, qui survivent mais qui sont blessés. Ils lui amènent les enfants et ils essayent de lui dire « non, va soigner quelqu'un d'autre ». Et il dit « non, ma prio, c'est ces enfants, je vais les sauver ». Et il les sauve, et en fait, peu après, donc il met en danger sa carrière. Peu après, les enfants, ils s'en vont, ils vont faire leur vie. Et il se rend compte des années plus tard que le garçon des deux a grandi et s'est devenu un tueur en série. Donc en lui sauvant la vie, il a causé la mort de plein de gens. Et que c'est peut-être même lui qui avait tué ses parents à la base. Et du coup, il y a un jeu du chat et de la souris qui se met en place, où ils sont tous les deux un peu obsédés l'un par l'autre, en mode Sherlock Holmes et Moriarty, mais pas du tout... Enfin, c'est vraiment très sérieux. Il y a un agent de Interpol qui le recherche et qui commence à se dire « mais en fait, peut-être tu le connais, le serial killer, parce que c'est hyper bien, c'est trop prenant. Et toi qui aimes bien les trucs policiers et tout plein de trucs de prise de tête, de responsabilité, c'est vachement cool. Et c'est en Allemagne, donc c'est chouette. »
Super. Oui.
Merci beaucoup pour ce kiff culturel, comme d'habitude, Kalindi. Un plaisir. Et pour une fois, on échange un peu nos rôles, puisque tu as parlé d'un manga et moi, je vais parler d'un film. Car il faut savoir que j'ai un peu du mal à me motiver à regarder des films et à aller au cinéma. La plupart des films que je regarde, c'est un peu des blockbusters éclatés qui sont genre 4 sur 10. Donc, il n'y a aucune raison que je vous en parle. Ne regardez pas les films de Guy Ritchie. Voilà, sa carrière est un naufrage, j'en ai vu 3, c'était horrible à chaque fois. Mais pour une fois, j'ai vu un bon film entre deux épisodes de Succession, donc je me suis dit...
Pardon, excuse-moi.
Oui, donc, Succession.
Je suis en plein dedans, Kendall.
Oh là là, j'ai déjà fait la propagande, t'inquiète pas. Il y a toutes les semaines des LM Crado qui me disent « J'ai commencé Succession grâce à toi, donc je suis ravie ». J'ai vu un film disponible que j'aurais bien aimé voir au cinéma, mais que je n'ai pas vu au cinéma, qui est sorti récemment, qui est disponible en location notamment sur Apple TV+. C'est là où je l'ai vu, il doit être sur 2-3 autres trucs genre Canal. Et ça s'appelle Sound of Metal, donc littéralement le son du métal. C'est un film qui a fait pas mal de festivals en 2019 et après, lol, le Covid. Donc il a été quelque peu décalé. Et c'est un film avec un acteur que j'adore qui s'appelle Riz Ahmed, donc R-I-Z et Ahmed comme Ahmed, qui est un acteur britannique qui a notamment joué dans des films éclatés genre Venom où on sait pas ce qu'il fait là, mais il a joué dans une mini-série HBO, donc dispo sur OCS qui s'appelait The Night Of, où il jouait un jeune homme à New York qui était accusé d'avoir tué une femme et on n'était pas sûr, nous spectateurs, de est-ce qu'il l'a fait ou pas, et qui se retrouvait pris dans l'engrenage judiciaire américain avec en plus le fait qu'il est racisé, il est d'origine je sais plus quoi mais en gros il est arabe, et que du coup il n'était pas du tout traité pareil que d'autres accusés.
Avec John Turturro en sandales, on le précise.
Oui, en sandales avec une éruption d'un eczéma des pieds.
Tout à fait.
Mais John Turturro, excellent acteur. Et donc The Night Of, c'était une mini-série qui était vraiment porté par cet acteur qui jouait en plus beaucoup tout seul ou avec un seul interlocuteur puisqu'il est quand même en garde à vue ou en prison pendant une bonne partie du truc en attendant son procès. Et c'est un mec qui a il est très beau, il a des immenses yeux noirs, il a vraiment des yeux de biche et il est capable, je trouve, de faire passer énormément d'émotions sans dire grand chose. Et ça tombe très bien puisque dans Sound of Metal il joue Ruben qui est batteur dans un groupe de punk et la chanteuse du groupe c'est aussi sa compagne et on sent qu'ils sont vraiment très fusionnels. Et là ils sont en tournée aux États-Unis dans une caravane aménagée, donc vraiment l'intégralité de leur vie c'est faire du son et traîner ensemble et aller de ville en ville pour faire leurs concerts. Et on sent que lui c'est un mec très discipliné. Le film s'ouvre sur lui qui joue de la batterie pendant le concert et sa meuf qui chante, et ensuite on voit qu'elle elle fait la grasse mat dans leur caravane. Du coup lui il se lève, il fait son sport, il a plein de matos électroniques hyper bien rangés et tout, il est vraiment très focus et on sent qu'il a voilà une forme d'intensité chez la personne. Et le problème c'est que c'est là où le film commence. Au bout d'environ 20 minutes de film, il se réveille un matin et il entend quasiment plus rien, il a perdu son audition parce qu'il a pas protégé ses oreilles et du coup il doit affronter le fait que sa vie doit changer, mais c'est très compliqué pour lui, c'est très compliqué évidemment pour sa compagne aussi. Et c'est tout un film sur l'acceptation de perdre un sens, de ce que la vie met sur notre route. Et là, c'est un film sur l'addiction aussi, parce qu'on apprend assez vite qu'il a un passé d'addict. Il est il a plus consommé depuis longtemps, mais du coup, le fait de perdre le sens le plus important pour lui, ça le remet dans une spirale dangereuse. Et c'est un film qui met en avant quelque chose qu'on voit pas beaucoup au cinéma et où moi je sais que ça existe parce qu'on a des articles là-dessus sur Mademoiselle, qui est le fait qu'il y a une vraie communauté sourde qui considère qu'il y a une culture sourde, qui ne veut pas être considérée comme en situation de handicap, qui ne veut pas retrouver Louis, et qui est simplement une culture avec sa langue, avec son histoire, avec ses personnalités. Et en fait le personnage de Ruben se retrouve donc son parrain de sa désintox quand sa copine le contacte en mode il est en train de perdre Louis, il devient zinzin, il faut que tu l'aides, lui dit bah il y a des gens là-bas qui peuvent t'aider. Et en fait c'est une communauté de gens sourds qui sont dans l'acceptation de leur surdité et dans le fait de voir ça comme faisant partie d'eux. Et en fait c'est un film qui, je sais plus s'il a été nommé pour le sound design aux Oscars, mais en tout cas il le mérite, peut-être qu'on le sait pas encore, je sais plus, vu qu'on est que en décembre.
Non, on sait pas encore, mais je croyais que... Okay. Il est sorti quand ?
Bah, Wiki dit 2019, mais en vrai comme il y a eu le... il est pas... enfin, il a été présenté en festival en 2019. Ouais. Et en 2020, il a été dispo à un moment aux US sur des plateformes. Il est sorti dans quelques ciné. En France, je ne sais même pas s'il est sorti au ciné.
Parce que moi, je ne l'ai même pas...
Bah, je savais qu'il était sorti parce que les journalistes ciné américains en parlaient. Mais en France, je ne sais même pas s'il a été dispo à un moment. Mais en tout cas, il est dispo légalement sur Apple TV. Et en fait, tout le sound design du film nous plonge dans ce que le personnage entend et donc n'entend pas, puisqu'il a vraiment perdu beaucoup de son audition. Et du coup, on est vraiment dans une immersion où le son s'atténue. Enfin, on a un plan large où du coup, on va entendre les brouhahas ou la musique ou les gens qui applaudissent. Et quand on passe dans les yeux du personnage, vraiment, il y a tout qui se baisse graduellement et on n'entend plus rien. C'est un film qui explore aussi des options qui s'offrent aux personnes qui veulent retrouver une partie de leur audition, comme des implants et des choses comme ça, qui en fait ne donnent pas le résultat qu'on a quand on... Enfin, c'est pas une solution miracle. Ouais.
Surtout quand on est musicien, j'imagine.
Oui, voilà. Mmh. Et lui, c'est vraiment... c'est un esthète du son, quoi. On voit que tout son matos, il est très, très... quali et qu'il fait plein d'arrangements, plein de compositions. Il y a évidemment des gens qui parlent en langue des signes américaine et en fait c'est pas sous-titré et c'est pas t'as vraiment des moments où il y a aucun bruit dans le film, enfin aucune musique, aucune parole, c'est juste un cercle de gens qui parlent en langue des signes et lui il est au milieu et en fait il comprend pas la langue des signes, il est là ok bah super, je vois pas quoi faire ici. Et en fait ça nous met aussi dans la situation inverse de ah bah il y a des gens qui parlent leur langue et nous on n'a pas la capacité de comprendre ce qu'ils racontent. Il y a beaucoup d'émotions du coup qui transparaissent dans le film parce que lui il parle mais il parle de moins en moins puisqu'au bout d'un moment il s'entend pas parler, donc au début il parle aux gens juste en leur disant je vous entends pas, écrivez, mais il a tendance à leur répondre à l'oral, puis petit à petit il apprend la langue des signes, il apprend plein de méthodes différentes de communiquer avec les gens, ça a bien sûr un impact sur sa relation amoureuse et il y a toute cette question de est-ce qu'il est capable d'accepter, est-ce qu'il est capable de lâcher prise ou est-ce qu'il va continuer à lutter, à essayer d'être dans le déni et à croire que tout pourra redevenir comme avant. Et c'est un très très beau film avec un très... Enfin, franchement, il n'y a pas énormément de budget, je pense. C'est un petit cast. Il doit y avoir 5 acteurs principaux à tout
casser.
Qu'est-ce
qui réalise ça ?
Alors, c'est un mec qui s'appelle... Wikipédia, bonjour. Darius Marder. Et non pas Murder. C'est une... Oui, non, c'est un mec. Oui, c'est ça. Qui a fait, eh bien, The Place Beyond the Pines. Il était scénariste.
Ah, putain, c'était lui ?
Bon, en fait, il était scénariste. Ah, okay. Et Sound of Metal, c'est son premier film en tant que réal. Donc, franchement, BG, ah. Parce qu'il y a une vraie proposition de réalisation qui est très cool. Okay. Et il gère très bien un acteur comme Riz Ahmed, qui peut être très, très puissant quand on le laisse faire les bonnes émotions. Il le filme très, très bien. Et c'est très joli. Il y a un côté un peu road trip en plus, parce qu'on va voilà, dans différents coins de campagne des États-Unis à la rencontre de différentes personnes. C'est vraiment... très chouette, c'est tight, je pense que c'est 2 heures. Plein d'émotions, à la fin ça foutait vraiment les poils, ça m'a fait me rendre compte que je suis terrifiée à l'idée de perdre mon ouïe parce que vraiment, waouh, j'écoute trop de podcasts pour pouvoir communiquer
ouais,
sans.
Bien sûr.
Et ce truc de, il est tout seul dans sa tête tout le temps, quoi. Il peut pas noyer sa tête dans de la musique ou des podcasts ou machin, et j'étais là, ok, c'est horrible, jamais de la vie. Et en même temps, bah, c'est un film qui aborde le fait que c'est pas forcément horrible et qu'on peut aussi vivre avec, vivre différemment, vivre sans.
L'année dernière, j'ai fait... une visite avec donc une traduction en LSF et en fait donc c'est une jeune femme qui s'appelle Elodia donc qui est interprète et son compagnon RMC lui il est sourd et il est en même temps il est rappeur, donc ils avaient ramené une dizaine de personnes, c'était si je me trompe pas toutes des femmes racisées sourdes. Et donc là, moi je faisais donc évidemment la parole et c'était doublé. On avait dû un petit peu travailler ensemble pour les noms propres des personnages, donc fallait que je leur donne les personnages pour qu'ensuite ils se mettent d'accord sur des codes pour pouvoir ensuite dire telle personnalité, etc.
Oui, parce que si tu dois les appeler à chaque fois,
ouais,
dit,
non,
c'est long,
pas
quoi.
Possible, tu vois. Et puis il y a des trucs, va appeler Victor Schellchart, tu vois, c'est chiant, quoi.
Ouais, je sais pas le faire.
Donc non, c'est plein de trucs comme ça et des initiatives hyper intéressantes et tu te sensibilises. Et puis en plus, il y avait tout un truc autour de des questions politiques auxquelles ces publics-là sont pas forcément sensibilisé parce que jusqu'à très récemment ben en fait on traduisait rien du tout, enfin bref, ouais, c'était très 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 intéressant comme expérience. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler ça, quoi.
Carrément. Et je sais que c'est un truc qu'on nous demande souvent, de transcrire nos podcasts sur Mademoiselle, ouais. Parce que du coup ils sont pas accessibles aux personnes malentendantes. On sait, c'est compliqué, c'est quand même des longs podcasts. On y réfléchit, on a l'info.
Mais toutefois, on a un podcast extraordinaire qui sort tous les vendredis, qui s'appelle Le seul avis qui compte, tenu par Kalindi Ramphel, et qui est retranscrit sur le site. Donc
tout
n'hésitez pas à aller le lire.
Très belle autopromo, très beau self-plug, bravo Kalindi. Eh bien écoutez, c'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer. Oui, on a été très tight, malgré des kiffs parfois un peu plus nombreux que prévu.
Je me sens revisée, Mimi.
Non, franchement, on a fait 1 heure d'épisode. On est très sage, wow. Aujourd'hui. Merci beaucoup, Kevin, pour ta participation.
Merci de m'avoir reçu.
C'est le Paris Noir.
C'est ça.
On peut te retrouver sur Internet, à la fois sur Instagram et pour prendre des places pour les visites.
Ça
on
marche.
Espère que le Covid ne va pas te refoutre en arrêt, donc allez soutenir les visites guidées pendant qu'il est encore temps. Merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Kalindi.
Merci
vous
à vous.
Retrouver sur leur merci. Compte Instagram qui sont dans la description. On vous dit à la semaine prochaine. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, à la semaine prochaine sur... Non, ça marche pas. Non, j'allais vous dire à la semaine prochaine sur Twitch, mais c'est déjà passé. Tant pis pour vous. Vous viendrez, abonnez-vous à la chaîne Twitch de Mademoiselle, comme ça vous aurez l'alerte quand il y a des Laisse-moi kiffer en live. On vous fait des gros bisous. Vous savez comment nous envoyer des commentaires, des dédicaces, etc. C'est la même chose à chaque fois. À la semaine prochaine. Bye bye.
Bye bye.
Bye. Bisous.
Bisous.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.